Bonne nouvelle les amis, vous êtes plusieurs à avoir ressenti les bénéfices du Theta Healing. Donc merci pour votre engouement, c'est une expérience extraordinaire que je vis avec vous au cours de chaque séance, donc merci, un grand merci. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Theta Healing c'est une pratique de reprogrammation des croyances subconscientes restrictives qui vous empêche d'atteindre vos objectifs en matière de santé, de réussite, de finances, d'amour. Et grâce à l'onde Theta, le participant peut identifier et changer les croyances susceptibles de se trouver dans son subconscient au niveau de sa génétique, de son histoire et de son âme. Alors je ne pratique plus les sessions à prix libre, cela dit, je pratique 3 tarifs différents pour vraiment permettre à tout le monde de bénéficier de ce soin absolument extraordinaire. Donc n'hésitez pas à me contacter. Moi, je ne crois que ce que je vois. Ah, t'es sûr? C'est pas plutôt... je vois ce que je crois? Bonjour et bienvenue dans Croire, c'est voir, le podcast au sujet des croyances limitantes, remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Étant donné que nos croyances sont le fruit de notre inconscient collectif et individuel, nous avons le pouvoir de les conscientiser afin de les transformer et donc de trouver notre voie. Notez le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion et de donner encore plus d'inspiration et d'aider le monde à profondément changer ses croyances. N'hésitez pas à me transmettre vos avis, vos remarques, vos questionnements sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec grande joie. Merci et bonne écoute. Mon invitée est animatrice du podcast le plus écouté de France, un des plus écoutés de France, une mine d'or d'informations pour notre bien-être psychique et physique. Il éveille les consciences grâce à des invités exceptionnels, guidés par beaucoup de douceur, de pertinence et de professionnalisme. Il s'agit bien sûr de Métamorphose. Fondatrice du magazine Féminin Bio et directrice de collection chez Erol, elle a notamment fait paraître 2 oracles, et son dernier ouvrage, Un conte pour adultes, La fée qui ouvrait les cœurs. Vous aurez reconnu Anne Guéquière. Bonjour Anne.
Oui, bonjour Anaïs.
Alors j'aimerais bien qu'on parle des croyances soulevées dans ce conte, absolument touchant. Mais avant cela, Anne, j'aimerais bien connaître ton histoire, et notamment les évolutions de tes perceptions. Alors j'aime bien commencer par cette question. Enfant, Anne, quels étaient tes rêves? Comment voyais-tu le monde?
Quand j'étais enfant, je dois dire que je ne me souviens pas forcément de mes rêves d'enfant comme ça. J'en avais certainement beaucoup. J'étais une petite fille assez joyeuse dans mes souvenirs, d'après ce que me disent mes proches et mes parents. Et en fait, mes rêves, c'était vraiment d'explorer... mon territoire de proximité, pas tellement de me projeter forcément dans l'avenir, mais plutôt de jouir de la vie et du quotidien. Je dirais que c'était plutôt ça mes rêves en fait, d'être avec ma bande d'amis, de les recevoir à la maison, d'organiser des petites fêtes, de profiter de l'instant présent. Je me souviens pas que j'avais des rêves qui me projetaient en fait dans un futur lointain.
Et comment tu voyais le monde quand tu étais enfant?
Petite fille, j'avais vraiment cette joie de l'instant présent, de vivre ce que j'avais à vivre dans le moment. Et puis il y a eu un autre moment dans l'enfance où d'un seul coup, donc j'ai été élevée sur une île et ma famille n'était pas originaire de cette île. Donc on n'y avait pas d'attache particulière au départ, ni de famille. Et en fait, sur cette île, au bout d'un moment, je me suis sentie en fait un peu à l'étroit. Vers 12-13 ans, je trouvais que l'horizon, même s'il était vaste, parce qu'en face de cette île très 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 loin devant, c'est l'Amérique, mais je trouvais que la vie sur cette île, notamment les hivers, était longs et c'était assez enfermé. Il faut se remettre à un moment où l'Internet en fait n'existait pas. Donc cette fenêtre qu'on peut avoir aujourd'hui vers le monde... Et puis ces endroits qui étaient peut-être un petit peu plus enclavés à une époque se sont beaucoup, beaucoup ouverts maintenant avec l'arrivée d'Internet, des nouvelles technologies où les gens se sont mis finalement à vivre un peu n'importe où, à travailler à distance. Et moi, à l'époque, je trouvais que cet environnement était étriqué. Et c'est vrai que mon rêve a été assez rapidement, même si j'adorais cet endroit, de sortir en fait de cette île pour aller faire mes études ailleurs. Et donc, à 12 ans, j'ai demandé à mes parents de partir. Pourtant, j'avais un foyer familial qui était très chaleureux, très accueillant, avec beaucoup d'amour. Donc, ce n'était pas une question de mon foyer familial, mais vraiment de l'environnement autour. Je me sentais étriquée, j'avais envie de voir le monde. Et j'ai demandé à partir en pension. Alors, voir le monde, partir en pension, ça peut faire un peu enfermé d'aller en pension. Mais c'était pour moi une façon d'accéder à une autre population, à d'autres personnes, à une plus grande ville, et d'être soumise, je pense, à un brassage culturel et humain, voilà, différent en tout cas et nouveau.
Super. Alors quand tu dis que tu es partie en pension, c'était parce qu'il me semble que tu es issue d'une famille chrétienne.
Oui.
Donc c'était chez les bonnes sœurs.
Alors oui, c'était une école effectivement catholique, tenue par des dominicaines, mais qui n'étaient plus des sœurs en fait en habit et qui étaient très ouvertes. Donc il n'y avait pas d'obligation par exemple de messe, etc. Et c'est moi qui avais aussi choisi avec mes parents ce collège. Et donc c'était pas dans un environnement du tout. Enfin c'était la pension, donc c'était quand même assez strict, comme tout type de pension, mais c'était pas un environnement avec des obligations en tout cas particulières, même si on avait du catéchisme, et qui était d'ailleurs à l'époque un des cours que je préférais, qui était tenu par une sœur, mais qui était pas en habit. Je ne sais plus si c'était une laïque consacrée ou une sœur, je ne me souviens plus bien. Et en tout cas, je me souviens que c'était parmi tous les cours, c'était ce qui me passionnait le plus, parce qu'elle abordait énormément de questions de philosophie. Et j'adorais, en fait, et on était en petit groupe, on pouvait débattre, discuter de ces grandes questions. Et je me souviens, c'est probablement la figure dont je me souviens le plus de mes années de collège, tu vois. Qui m'a marquée. Ouais.
Tu avais déjà un pied dans la philosophie dès cette période-là.
Ben, c'était une forme de philosophie. Et puis, c'était un catéchisme qui était très ouvert, où finalement, elle abordait toutes les grandes questions existentielles. Elle avait aussi conscience, cette femme qui était... voilà, incroyable, je ne me souviens absolument plus de son nom, il faudrait d'ailleurs peut-être que je la retrouve un jour. Mais elle avait cette conscience très aiguë qu'elle avait affaire à des adolescents, et que l'adolescent est en quête, un grand questionnement à ce moment-là dans sa vie, dans ce questionnement qu'on retrouve chez Maria Montessori, qui dit de l'adolescent, apprends-moi, l'adolescent dit à l'adulte, apprends-moi à penser par moi-même. Et c'est vraiment cette grande époque de la vie où on apprend à penser par soi-même avec ces grandes questions philosophiques que moi, je trouve personnellement qu'on n'aborde pas assez tôt chez les jeunes. Je le regrette dans le système. En général, je ne sais pas comment est fait le système français aujourd'hui, mais quand j'ai passé mon bac, on abordait la philo vraiment à la toute fin de nos études. Et elle nous faisait non pas un catéchisme rigoureux avec des enseignements à suivre et tout ça, mais vraiment, elle abordait toutes ces grandes questions métaphysiques qui animent l'être humain. Et moi, je courais à ces cours de catéchisme, vraiment de manière très, très joyeuse. Et c'était quelqu'un dont j'étais très proche. Et ouais, ça a été un souvenir marquant, en tout cas, de ces années collège.
Alors, précisément, dans Métamorphose, tu interroges des chamans ou simplement des personnes qui ont d'autres systèmes de croyances religieuses, spirituelles. Et alors, je me demande comment toi, ça a pu modifier tes croyances dans ta propre spiritualité, parce que même si ces cours de catéchisme étaient effectivement très ouverts, le socle reste quand même chrétien. Donc, comment, dans quelle mesure ça a pu faire évoluer ton état d'esprit, en fait, grâce à Métamorphose ?
Alors c'est vrai que j'ai une ouverture qui est quand même assez limitée sur le chamanisme, puisque moi je me sens pas issue du tout de cette tradition-là, donc même si elle peut m'interroger, parce qu'il y a un néo-chamanisme aussi qui est très à la mode, et je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui s'interrogent sur ces sujets-là, donc au sein de Métamorphose, j'ai dû interviewer, je pense, peut-être deux ou trois personnes qui sont venues parler de chamanisme hein, sur les plus de 500 interviews. De Métamorphose, donc c'est pas un angle particulier que je prends, même si ça m'intéresse beaucoup de manière œcuménique, justement, si on reprend un terme qui chez les chrétiens, qui est vraiment cette ouverture en fait à une diversité de croyances, de cultures, de religions, de spiritualité. d'aller aussi interroger ces croyances-là. Ensuite, moi, je crois qu'on avait, justement, je crois qu'on avait, on a une forme de chamanisme qui existait chez nous, en fait, de spiritualité autochtone. Souvent, les gens vont chercher un chamanisme lointain, que ce soit à travers du chamanisme plus dans les terres de Mongolie ou du chamanisme plus amazonien, alors qu'on avait, à travers nos druides, du chamanisme, par exemple, dans le Pays Basque, etc., on avait aussi cette culture, chez les Celtes, évidemment, qui était très répandue, d'une forme d'animisme aussi, d'accès, voilà, à un grand tout. Alors, c'est sûr que moi, par rapport à ma chrétienté, puisque tu me poses la question, j'ai fait beaucoup d'allers-retours par rapport à mes croyances, justement. Je suis passée, je pense, d'une adolescence où après, ça me passait un peu au-dessus, voilà, un retour à ma foi quand j'avais, je dirais peut-être autour de 24-25 ans, je le raconte souvent, j'ai une amie très proche qui était presque comme une cousine pour moi, mais qui était une amie avec qui je sortais beaucoup, on faisait la fête, etc., qui du jour au lendemain a fait un chemin de foi et a décidé de rentrer dans les ordres. Alors c'est sûr que pour moi, ça a été à ce moment-là un choc dans ma vie. Elle avait 22 ans, elle était plus jeune que moi. Moi, j'en avais, ouais, 24-25, on a 3 ans, je crois, d'écart. Et ça m'a beaucoup interrogée. Son choix, justement, par rapport à sa foi et à sa croyance, m'a énormément interrogée. Et donc, je suis allée beaucoup explorer dans sa communauté. Justement, elle était aussi, elle est dans un ordre catholique dominicain. Et ça m'a beaucoup interrogée. Je suis allée voilà, passer du temps dans des monastères autour d'elle pour comprendre quel était son engagement. Et je dois dire qu'à ce moment-là, j'ai été saisie par une foi qui m'est tombée dessus, comme si j'ai eu à ce moment-là une sorte d'éveil ou de révélation. Hein, j'étais comme si j'avais été toujours croyante de manière assez intuitive, avec une foi vraiment dans le cœur comme ça, mais aussi certainement fait de conditionnement, du fait de ma famille, même si ce n'était pas des cathos. Je dis souvent que mes parents, c'est des cathos qui étaient aussi naturistes, hein, donc ce n'était pas non plus des grenouilles de bénitier, c'était des gens, ce sont des gens, ils sont toujours...
J'aime bien l'appellation.
Voilà, c'était des gens très ouverts. Bon, il faut se remettre dans un contexte, hein. Moi j'ai été élevée petite dans les années 70, hein, donc il y avait ce contexte-là d'une certaine époque. Mais voilà, donc j'avais cette foi qui était faite de conditionnement, et j'ai redécouvert à travers cette amie effectivement une autre façon de vraiment. J'ai été touchée vraiment profondément dans mon cœur par la voix du Christ, hein, par Jésus. C'est vraiment ça qui m'a appelée, par les évangiles, et je me suis dit, tout est là. Et puis j'ai vu aussi dans ces communautés croyantes, dans certaines de ces communautés reconnues par le Vatican, etc., hein, ce ne sont pas des alternatives, elles sont vraiment dans l'Église catholique. Et j'ai vu des gens qui avaient un rayonnement extraordinaire que j'ai retrouvé finalement assez peu dans la vie de tous les jours, y compris dans le développement personnel ou dans le domaine de la psychologie. Et j'y ai vu des personnes qui, par leur foi, avaient transcendé, il y avait vraiment une forme de transcendance à travers la prière et la foi chez ces êtres-là, qui m'a beaucoup aussi, beaucoup interrogée, en me disant, waouh, il y a une lumière qui les traverse et qui est très, très attirante, impactante. Voilà, et cette forme de grâce-là, puisqu'on peut appeler ça la grâce, oui, qui les touche d'une certaine manière, m'a beaucoup interpellée. Et c'est à ce moment-là que je me suis mise en chemin de manière peut-être plus approfondie moi-même au niveau de ma foi chrétienne. Alors c'est vrai que du coup, quand je fais des interviews de métamorphose avec vraiment cette grande ouverture, si j'interroge des personnes qui ont peut-être fait des expériences autour du chamanisme, je sais au fond de moi, en tout cas j'ai cette croyance que tous les chemins mènent à, on dirait tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins mènent à Dieu d'une certaine manière, en tout cas à la source ou à l'amour, quelles que soient nos croyances. Nous sommes reliés par une force, un champ de conscience, quel que soit finalement le nom qu'on lui donne, qui est commune, et quelles que soient les voies d'accès finalement à cela. Après, on peut croire que Jésus effectivement était incarné comme le Fils de Dieu, ça c'est ma croyance personnelle. Mais moi, quand je vois des gens qui effectivement pratiquent une forme de chamanisme et qui ont accès à des esprits ou qui dialoguent avec d'autres forces, d'autres sources, pour moi, c'est tout à fait, enfin, j'ai tout à fait cette ouverture-là pour le comprendre et puis l'expérimenter peut-être aussi par certains côtés, aussi de mon côté, tu vois. Donc ça a fait, est-ce que c'est métamorphose qui a fait évoluer mes croyances ou c'est déjà l'ouverture que j'avais par rapport à tout ça qui était là, je pense, déjà avant peut-être, qui a précédé même, je pense, métamorphose.
Oui, en fait, tu avais déjà cette ouverture qui t'a permis d'ailleurs d'accueillir ces invités et d'être ouverte à toutes les religions et toutes les croyances.
Oui.
Et alors justement, on va parler un peu plus de métamorphose et globalement de tes activités journalistiques, donc avec Féminin Bio, les éditions Erol, etc. Comment t'es venue cette idée de créer ces activités journalistiques? Donc je crois que tu as commencé par Féminin Bio, si je ne m'abuse. Voilà, comment ça t'est venu? Est-ce que à ce moment-là, tu étais dans une quête spirituelle ou vers quoi tu tendais quand tu as eu ces idées?
Moi, j'avais fait donc des études assez classiques, un parcours d'école de commerce, puis du droit des affaires. J'étais juriste, donc j'avais commencé à travailler pour des grands groupes et puis j'avais fait un mémoire sur les droits d'auteur sur Internet. Et puis, ça m'intéressait beaucoup. C'était en 96. Il devait y avoir un cybercafé à Paris, donc je faisais partie de ces pionniers qui s'étaient intéressés au sujet de... Ça s'appelait les autoroutes de l'information à l'époque. Il y avait eu un grand livre de la journaliste... Dominique Nora cherchait son nom sur le sujet. Et donc, j'avais fait un mémoire sur ce thème. Et du coup, ça m'a permis de rentrer en fait, dans un projet lié à Internet au sein du groupe Vivendi. Et puis, j'étais très excitée par ces projets voilà, d'Internet. C'était génial. On avait vraiment le sentiment d'être des pionniers. J'étais très jeune. On était une équipe voilà, de jeunes. Mon patron, à l'époque, avait fait Harvard Business School. Il revenait des États-Unis où voilà, l'Internet démarrait, 97, etc. Et puis, malgré tout, j'avais cette vie où j'avais passé du temps dans des monastères. J'étais très excitée par Internet. Et donc, voilà, tout ça, c'était moi. Et ça cohabitait très bien, en fait. Et je me souviens qu'à cette époque, je ne cachais pas non plus ma spiritualité. Ça ne me gênait pas du tout, alors pas du tout pour faire du prosélytisme, mais voilà, je ne cachais pas non plus que j'étais croyante et que j'aimais aussi prier, que j'aimais la contemplation et que ça faisait partie de moi. Et ça ne m'empêchait pas par ailleurs d'être aussi une très grande fêtarde et d'aimer sortir. Et à l'époque, je fumais comme un pompier. Les gens, quand je leur disais, ils me disaient « bon, toi tu fumais ». Mais j'avais quand
le
même...
Le paradoxe.
Ouais, le paradoxe, exactement. Et j'avais quand même au cœur de me dire... Est-ce que le métier que je fais est au service, en fait, de ce qui m'anime profondément? Qu'est-ce qui m'anime profondément? Est-ce que je me sens utile à moi-même et je me sens utile au monde? J'avais vraiment quand même ça. Et je demandais souvent, en tout cas à Dieu, dans ma croyance, justement, de dire là où est ma place, en fait, je te dis un grand oui, de me mettre à ma juste place. Alors ensuite, j'ai monté une start-up. Il y a eu l'éclatement de la bulle Internet, j'ai revendu ma start-up à la casse et puis j'ai rencontré mon mari et à ce moment-là, on est parti en fait voyager pendant 3 ans, on s'est installé à Barcelone et de là, on a beaucoup voyagé. Et en voyageant, j'ai eu une prise de conscience extrêmement forte de l'état de la planète. J'aurais pu tout à fait l'avoir en Europe hein, parce qu'on aurait pu voir ça aussi en France. Mais c'est vrai qu'en m'extrayant en fait de mon milieu, en voyageant, en allant justement aussi à la rencontre de certains peuples premiers en Inde, en Australie, des gens qui avaient des manières de vivre finalement aussi très proches de la terre. J'ai reconnecté avec les plantes à ce moment-là, avec la botanique. Mon grand-père était pharmacien, il faisait ses préparations. Et moi, j'avais pas eu en fait, il n'y avait pas eu une transmission de cette connaissance-là. Et je me disais, bah, finalement, chez nous en Europe, et en particulier en France, on a oublié cette médecine traditionnelle, ce savoir avec les plantes, la botanique. Et je me suis mise à creuser tous ces sujets-là, autour du bien-être, de la beauté, de voilà de cette façon de se nourrir aussi au quotidien. J'ai écrit un premier livre, puis un deuxième, et j'ai fondé effectivement le média Féminin Bio à ce moment-là, en 2007, en me disant, il manque un média un peu d'information, de référence sur tous ces sujets-là, sur un mode de vie harmonieux où on parlerait finalement d'une alliance corps-tête-cœur et qui soit dans une vision assez holistique, hein, voilà, 360 de l'être humain. Et c'est à ce moment-là, en 2007, que j'ai fondé un média de niche, qui était au début un web média, puisque comme je venais de l'Internet, j'avais travaillé pour des groupes Internet. Je me suis dit, bah, tiens, je vais réconcilier mes anciens amours, les nouvelles techno. Et puis, tout cet ensemble du vivant, de lien à la Terre que j'ai envie de partager. J'avais lu beaucoup de livres, assisté à beaucoup de conférences. L'information était encore un peu complexe à trouver à ce moment-là. Et voilà, et donc cette idée de faire ce partage à travers ce média qui est devenu ensuite un magazine papier et puis qui a duré presque 16 ans. Moi, j'ai cédé Féminin Bio il y a 2 ans, un petit groupe média.
C'est récent.
Voilà, c'est assez récent, un peu plus de 2 ans, presque 2 ans et demi. Et puis c'est sûr que j'avais déjà cédé, j'étais partie vivre aux États-Unis avec ma famille, donc j'avais cédé la majorité du capital de Féminin Bio aussi en cours de route. Je détenais plus que 49% du capital pour pouvoir justement partir vivre aux US, même si j'étais toujours très, très active en fait dans le projet, mais plus avec un rôle d'ambassadrice. Et puis à un moment donné, quand je suis revenue en France, je me suis dit, toutes ces conversations intimes que je partage avec des gens extraordinaires depuis tant d'années, il manque peut-être un média de référence en fait en termes d'audio pour les partager. Et le podcast revenait en force à ce moment-là en France. Alors, ce n'était pas une idée nouvelle, puisque le podcast, ça existait déjà depuis le début des années 2000. Mais voilà. Et donc, je me suis dit, vraiment, ça m'est encore une fois tombé dessus comme ça, de me dire, c'est une évidence que tous les gens que j'interviewe pour Féminin Bio, toutes ces rencontres que j'ai faites, ce qui se passe en fait dans le moment, dans l'échange entre deux personnes, qui est parfois plus difficile à retranscrire à l'écrit, eh ben, je vais le passer dans des conversations de podcast. Voilà. Et voilà comment est née en fait Métamorphose.
Super. C'était il y a combien d'années alors, Métamorphose ?
Donc là, on est au milieu de la saison 5. Donc ça fait 4 ans et demi, c'est ça.
Ah oui, c'est encore en fait récent. Moi, dans ma tête, c'était il y a beaucoup plus longtemps. Bon, je devais
c'était
déjà
écouter
il y a 4 ans alors.
Début 2019, les débuts de Métamorphose, tout début 2019, ouais.
Super. C'est intéressant ce que tu dis, notamment sur les peuples premiers. Bon, moi, ça me touche directement parce que je travaille avec les peuples premiers d'Amazonie, du Brésil et aussi en Colombie. Et à chaque fois, je vois l'évolution en fait des pratiques ancestrales. Alors, il y a vraiment cette volonté en Europe aujourd'hui qui grandit de retourner à cette connexion à la terre et à ces pratiques ancestrales, justement sur le corps, le cœur et l'esprit, tout avec, enfin, en même temps qu'on ait tous ces outils technologiques, c'est-à-dire de les insérer dans cette modernité. Et c'est vraiment impressionnant de le voir aussi chez des peuples premiers. Et c'est exactement ce que tu fais avec Féminin Bio et Métamorphose, finalement.
Oui, c'est vrai que les technologies sont un médium, hein, donc pour finalement transmettre et favorise cette transmission-là aussi à plus grande échelle, avec aussi toute la responsabilité qui incombe dans cette transmission qui du coup se fait à plus grande échelle parfois, ce qui est le cas par exemple de Métamorphose. Oui.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai ce que tu dis, en fait c'est quelque chose qu'on avait déjà sur nos terres de par les Celtes, les Druides, aux Pays Basques, etc. et qui perdure encore aujourd'hui d'ailleurs. Et en fait, il y a vraiment cette volonté hein, de retourner à de la simplicité dans la modernité. Et c'est marrant parce que, tu vois, parfois les peuples premiers d'Amazonie et de Colombie me demandent « Mais vous, chez vous, il y a des peuples premiers ?» Je leur dis « Bah, c'est nous les peuples premiers !»
Oui, bien sûr.
C'est toujours assez drôle de confronter nos cultures où parfois ils me demandent si nous aussi on a une fête de l'indépendance. Bah non, puisque c'est nous qui avons colonisé, c'est nous qui sommes venus sur vos terres, donc on n'a pas de fête de l'indépendance, et les peuples premiers, c'est nous, en fait, mais sauf qu'on a tellement tout oublié, enfin, on s'est tellement éloigné de nos... C'est pas qu'on a oublié, mais on s'est tellement éloigné de cette culture-là, qu'aujourd'hui, on sait même plus ce que c'est, finalement. Donc, grâce à la modernité, on peut transmettre ces pratiques ancestrales.
Oui, c'est vrai que moi je suis bretonne d'origine, même si je suis pas née en Bretagne, mais toute ma famille est bretonne. Et puis quand on monte l'arbre généalogique, c'est vraiment des Bretons et des Celtes sur vraiment des générations et des générations. Et tu vois, mes arrière-grands-parents, ils parlaient breton en fait. Et quand on parle aussi d'autochtones et de langues et de peuples premiers, ce que tu évoquais à l'instant, quand tu disais, ben, on était ces peuples premiers, nous, sur nos terres. On ne se rend pas compte parfois qu'il y a aussi des langues qui ont disparu avec une forme de colonialisme aussi compris chez nous. C'est-à-dire que en Bretagne, il y avait par exemple la punition du sabot pour que à l'école, on ne parle pas breton et que ce soit la langue française qui soit enseignée. Donc on tapait sur les enfants avec des sabots, les sabots bretons, qui était la punition du sabot. Après, on leur mettait un sabot parfois autour du cou pour dire qu'ils n'avaient pas parlé la langue française. Et donc, il fallait absolument éliminer cette langue bretonne, par exemple. Moi, j'ai un frère qui a beaucoup travaillé, qui est reparti en fait apprendre le breton en disant, mais nous, finalement, peuple autochtone de Bretagne, tu vois, si on le formule un peu comme ça, c'est un peu caricatural, mais c'est le cas. Il y avait une langue dans ma famille que mes ancêtres parlaient et qui finalement a été oubliée, a été éliminée, éliminée parce que finalement la République a souhaité annuler cette langue-là. Donc maintenant il y a beaucoup de, il y a un retour hein, du breton, des écoles Iwan, etc. pour que cette culture finalement ne meure pas. Mes parents, mes grands-parents par exemple, là je parlais de mes arrière-grands-parents qui parlaient breton, mais mes grands-parents comprenaient le breton, le parlaient, mais ils ne le parlaient pas au quotidien parce qu'il fallait parler évidemment la langue de la République. Donc en une génération, en fait, on s'aperçoit que une langue a été comme ça complètement annihilée. Et quand on dit une langue, c'est une langue avec ses traditions, ses coutumes, ses chants. Voilà, tout ce qu'il y avait autour, évidemment, hein, c'est pas que la langue au niveau linguistique.
Oui, en fait, c'est cette violence d'annihilation des cultures hein, qui perdure aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, sur le continent européen, c'est déjà effectif depuis longtemps. Sur le continent américain aussi, on assiste à de nombreux indigènes qui ne parlent plus leur langue aujourd'hui, voilà, qui ne parlent que le portugais, et donc qui perdent la culture qui est liée à leur langue indigène.
Oui,
En
c'est
effet.
ça.
Alors, dans Métamorphose, tu abordes également le thème de la thérapie sous tous ses angles. On a vraiment un... Là, je pense que tu interviews beaucoup plus d'invités à ce sujet, hein. De nombreux thérapeutes passent sur Métamorphose. Et alors, justement, dans La fée qui ouvrait les cœurs, il me semble que la fée très diplomate, très douce et bienveillante, incite beaucoup hein, à la thérapie. Je pense notamment à l'oncle d'Alice qui tout d'un coup il voit clair sur ses propres blessures. Et donc, je me posais la question, est-ce que toi-même, Anne, tu as suivi une thérapie qui t'a métamorphosée?
Alors, non seulement j'ai suivi une thérapie, mais j'ai suivi plusieurs thérapies qui m'ont
J'imagine.
métamorphosée. J'ai suivi une thérapie, plusieurs thérapies, donc effectivement des thérapies plus psychanalytiques assez classiques, hein, donc voilà, revenir dans le passé, papa, maman, etc., sachant que c'est des sujets sur lesquels finalement on revient toujours hein, quand même,
Oui.
in fine. Ensuite, j'ai exploré aussi beaucoup les TCC, hein, les thérapies cognito-comportementales, avec voilà, dans le champ des thérapies brèves, avec voilà, des explorations type MDR, EFT, on peut mettre là-dedans éventuellement l'hypnose aussi, etc. Enfin, je ne vais pas toutes les citer, mais... Et puis des thérapies plus transpersonnelles, donc dans ces thérapies-là où le souffle et la spiritualité ont aussi... quelque part beaucoup plus leur place, et puis des thérapies dans les champs plutôt de la psychogénéalogie ou du transgénérationnel qui m'ont aussi passionnée. J'ai fait un parcours thérapeutique un peu plus de 2 ans aussi dans ce domaine-là et qui continue de voilà, me passionner autour aussi des constellations familiales, de tout ce qui est systémique, qui intéresse aussi beaucoup ma famille d'ailleurs, mes parents, mes frères. mes belles-sœurs, voilà. Donc, on est une famille. D'ailleurs, la fée qui ouvrait les cœurs, mon conte, est dédié aussi à ma systémie familiale, puisque c'est un travail qu'on a fait en commun et qu'on va retrouver beaucoup, y compris dans ce conte, des histoires qui touchent la famille, évidemment.
Oui, c'est avec l'oncle d'Alice, oui, on le sent effectivement. Et alors, est-ce que tu peux te décrire avant et après ces métamorphoses? Est-ce que tu as pu constater des changements de perception sur toi-même et sur le monde suite à ces métamorphoses et ces diverses thérapies que tu as pu effectuer?
Ce que je ressens, c'est que je porte toujours des masques, mais simplement, j'ai conscience aujourd'hui beaucoup plus de ces masques, de ces voix intérieures qui m'habitent. J'arrive à, comme si je pouvais être en observation, en auto-observation. C'est aussi l'apanage parfois de mieux se connaître quand on avance en âge, voilà, d'avoir ce point de vue sur soi qui est un peu plus méta. Nos expériences de vie, justement, nous permettent de décoller un peu nous-mêmes, d'aller vers le processus d'individuation, justement, dont parlait Jung, qui est ce travail qu'on fait sur nos conditionnements, sur nos croyances, sur nos imagos, qui est vraiment ce rapport au monde, à tous ces archétypes, toutes ces façons aussi que nous avons de nous attacher au monde, que ce soit à travers nos parents, mais à travers évidemment notre système familial, notre environnement, notre culture, et de pouvoir petit à petit décoller de ça, tout en ayant la conscience que nous sommes dedans. L'idée, ce n'est pas de s'en débarrasser, mais de prendre conscience de tout ce chaudron qui vit à l'intérieur de nous, et c'est jamais fini, et on n'aura jamais conscience de tout ce qui nous habite. Et puis d'ailleurs, à un moment donné, c'est bien d'avoir toute cette conscience-là, puis c'est bien de lâcher ça aussi. Comme disait Krishnamurti, et j'aime beaucoup aussi ses enseignements, même si je ne les ai pas forcément approfondis ou expérimentés, mais de se libérer du connu à un moment donné, de dire « Ok, tout ça, je l'ai vu, c'est toute cette matière qui m'habite. » Et en même temps, voilà, cette matière est là, et de ne pas forcément tourner tout le temps autour de soi-même, parce qu'on peut aussi, à un moment donné, et c'est un peu l'écueil quand même peut-être du développement personnel ou de la thérapie, c'est de finir par tourner autour de son nombril, et à un moment donné, se détacher de l'intérêt de soi pour agir au monde, parce que c'est ça, en tout cas personnellement, l'intérêt que je trouve, c'est de décoller du petit soi pour aller au monde, peut-être libérer un peu de ce petit soi et nos conditionnements et nos croyances pour porter du fruit, justement pour reprendre des paraboles chrétiennes, pour porter du fruit au monde de manière un peu différente. En tout cas, moi, c'est ça qui me parle aujourd'hui.
Oui, tout à fait. En fait, c'est plus du développement collectif finalement que personnel.
Oui.
C'est vrai que moi, je suis en plein dedans également. Enfin, ça résonne très fort ce que tu dis avec mon histoire, puisque moi aussi, je suis passée par des années de thérapie, j'ai essayé plein de choses. J'étais beaucoup dans les ruminations à me dire que « Ah, c'était à cause de mes parents, c'était à cause du monde, de la société, blablabla, que j'ai toutes ces blessures. » Jusqu'au jour où bon, j'ai pu transcender tout ça grâce aux soins et à la guérison de certaines blessures, jusqu'au moment où je me suis dit « Bon, maintenant, ça ne m'intéresse plus vraiment. J'ai plus envie de réfléchir sur moi-même. J'ai envie d'aller au monde. » Et c'est en ce sens voilà, que depuis maintenant quelques années, je développe des projets humanitaires et environnementaux. Mais c'est vrai que je le vois beaucoup dans le développement personnel. Parfois, on a tendance à réfléchir sur tout ce qu'on fait, jusqu'au moindre petit détail, et je trouve parfois que voilà, qu'on oublie peut-être qu'est-ce qui est essentiel pour notre cœur, parce que se poser des questions sur des choses très très superficielles, alors oui, ça peut mettre en lumière certaines blessures, mais parfois non, et c'est peut-être un peu le danger du développement personnel où à trop réfléchir sur tous nos agissements et tous nos comportements, on perd peut-être en vue de ce qui est vraiment important pour nous.
Oui, il ne faut pas que ce soit une voie de perdition. Il faut choisir aussi vraiment, je le répète à chaque fois, avec soin, et la ligne éditoriale de Métamorphose veille vraiment aussi à ça, de choisir vraiment avec discernement nos accompagnants, ou les stages qu'on peut faire dans ce domaine-là, que ce soit des voies thérapeutiques, psychiatriques, psychanalytiques, plus spirituelles, en fonction aussi de ces blessures, de ces ancrages, que toutes ces expériences, finalement, elles ne sont pas anodines, puisqu'elles viennent remuer aussi, comme tu le disais très bien, des choses de soi, du passé, parfois des blessures très lourdes, certains traumas. Et finalement, l'être humain est quand même bien fait. Si on a mis une chape de plomb ou si parfois on n'a pas le souvenir de certaines mémoires traumatiques, c'est pas non plus forcément par hasard. Et donc, il y a des voies qui peuvent aussi lever cette chape de plomb parfois très vite, notamment les psychédéliques aujourd'hui qui sont interdits en France mais sont autorisés ailleurs, permettent parfois d'explorer ça, chose que j'ai pas explorée moi-même. Aujourd'hui, ça ne. Ce ne sont pas des voies qui m'attirent à titre personnel, mais qui peuvent être extrêmement bénéfiques pour certaines personnes d'explorer ça, mais dans des encadrements avec aussi cette conscience de d'où je viens par rapport à mes blessures, hein, de ce que je sens en moi. Si on est accompagné par un médecin psychiatre, par des psys chevronnés, de savoir si ces expériences sont à faire dans un cas précis pour une personne, par exemple, ne pas se jeter comme ça à corps perdu, peut-être dans certaines expériences où on peut voir des gens ensuite en perdition et dans des états de détresse ensuite extrêmes. Bon, sans non plus être dans la peur, hein, mais moi j'adore la voie du milieu et aussi une forme de voie de la modération. C'est vraiment aussi le propos de Métamorphose. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est aussi à la mesure de qui je suis aujourd'hui? Tout ce qui passe en force, pour moi, n'est pas forcément. Parfois, on a besoin, évidemment, de se donner un petit coup de pied, un petit coup de pouce, hein, de forcer nos plis, nos croyances. On a tendance, au niveau cognitif, à faire des boucles, à toujours sortir, aller dans les mêmes boucles, aller dans le connu. Donc, si on veut se libérer du connu, peut-être c'est bien d'explorer d'autres voies, mais quand même rester dans une forme, je pense, de prudence, en tout cas.
Oui, non, c'est important parce que bon, moi, pour avoir essayé les plantes médecines, effectivement, on est quand même très vulnérable hein, psychiquement. Donc, c'est très important de le faire dans un cadre où on a confiance, où on se sent en confiance, où on ne nous force pas à prendre des doses où on n'a pas envie de prendre ces doses. Pareil, la question du dosage, enfin, voilà, j'ai déjà entendu des histoires où le dosage était tellement fort qu'effectivement, après, on avait des conséquences très graves avec des êtres en perdition à la suite d'expériences, donc c'est extrêmement dommage. Encore une fois, beaucoup de vigilance par rapport à ces plantes-là, parce qu'on est très, enfin, que ce soit des plantes ou autres psychédéliques, mais en tout cas, on est dans une vulnérabilité telle face à son inconscient que c'est important vraiment d'être accompagné, ça c'est sûr. Et après, voilà, bon, moi, toutes les expériences que j'ai eues, c'était énormément d'amour, hein, énormément de bienveillance, de beauté et d'unité, si je peux dire. C'est des choses qui seront difficiles à exprimer avec un langage, parce qu'en fait, quand on est dans des états comme ça, on passe plus par le langage, on passe que par le ressenti. Donc, c'est très difficile toujours de traduire ce qu'on a ressenti pendant ces expériences, mais en tout cas, voilà, si on peut dire un mot, c'est effectivement. Beaucoup, beaucoup d'amour. Et c'est vrai que c'est les thérapies finalement les plus profondes que j'ai pu essayer. Mais encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Il faut qu'on soit appelé à le faire, qu'on en ait envie. Alors, à la seule exception où effectivement, de ce que j'ai pu entendre par mes expériences, c'est les personnes qui sont addictes aux drogues dures. Ça a des effets vraiment miraculeux. Alors que les chemins plus modérés, donc quand on va en cure de désintox, etc., sont pas forcément toujours efficaces, malheureusement. Encore que cela dépende évidemment des professionnels dont on s'entoure, mais en tout cas de ce que j'ai pu lire des statistiques et de ce que j'ai pu entendre, c'est vrai que les personnes addictes aux drogues dures, qui sont passées par des plantes médicinales, ont vraiment des résultats extrêmement positifs. Ou l'addiction part d'elle-même.
C'est vrai qu'aux États-Unis, la FDA a autorisé en hôpital, bien encadré par des médecins formés ou des thérapeutes, certains psychédéliques qui, vraiment, en ouvrant la conscience, ont des résultats spectaculaires sur toute forme d'addiction, hein. Donc ça, c'est vraiment des travaux qui sont en très très grande émergence. J'avais reçu notamment Olivier Chambon psychiatre dans le podcast qui en a parlé, mais d'autres, hein, d'autres médecins psychiatres qui sont venus aussi en parler dans Métamorphose. Donc ça, c'est vrai que ce sont des voies aujourd'hui de, d'exploration. On n'est plus forcément, on est dans une forme de transpersonnel, mais qui est aussi médicalisée et encadrée. Donc c'est tout à fait différent effectivement d'expériences peut-être plus personnelles qu'on peut avoir, entre guillemets, peut-être plus récréatives.
Oui, exactement.
Oui.
Alors tu parlais du chaudron de nos blessures tout à l'heure, et dans le livre donc La fée qui ouvrait les cœurs, tu parles du volcan de colère, voilà, qui gronde du colère, qui représente finalement les blessures de l'humanité. Alors selon toi, Anne, quelles sont les croyances qui poussent l'humanité à tant de violence ? Qu'est-ce que toi, tu as pu remettre en question sur ton parcours de vie ?
C'est vrai que cette blessure qu'on a dans le cœur de l'humain est, pour moi, je le crois aujourd'hui, une blessure qui est intrinsèque en fait à notre incarnation. Hein, nous sommes des blessés d'amour, en fait, à plus ou moins, des degrés plus ou moins forts, de fait de notre nature incarnée dans la dualité, qui va expérimenter une forme de quête de retour à l'unité, en fait, dans notre chemin. Et cette blessure qui est dans le cœur humain est vraiment, pour moi, de sources multiples, que ce soit lié... On parlait de papa-maman tout à l'heure, on revient toujours à notre histoire familiale, dans quel terreau je suis née, comment je suis née, quand je me suis incarnée, quand je suis venue au monde, quelle était l'ambiance à ce moment-là dans ma famille, qu'est-ce que vivaient émotionnellement mes parents, mes grands-parents, est-ce que j'avais des frères et sœurs, quelle était l'ambiance, quelle était leur situation émotionnelle, spirituelle, matérielle à ce moment-là dans... Donc tout ça, tout ce terreau, finalement, va nourrir un certain nombre de choses, de conditionnements, de croyances, de lumières, de très belles choses aussi, évidemment. Hein. On a vraiment c'est les deux, enfin, tout ça qui cohabite, et pas que deux d'ailleurs, hein, toutes les certains nombres de polarités, de manière infinie. Et puis ensuite, en fonction de nos croyances, voilà, de quoi on hérite en termes de transgénérationnel, hein, ces fantômes. C'est loyauté inconsciente familiale, si on regarde du côté de la psychogénéalogie ou de la métagénéalogie, dirait Alejandro Jodorowsky. Qu'est-ce qui vient aussi de cet aspect-là ? Qu'est-ce que j'hérite finalement en inconscience de mes aïeuls ? Ces paquets cadeaux que je reçois comme ça par la poste qui arrive, je fais du 36 et je reçois une paire de chaussures en 43. Mais finalement, elle n'est pas pour moi cette paire de chaussures. Est-ce que je renvoie le paquet cadeau ? Est-ce que je le garde pour moi ? J'essaie quand même de marcher avec, même si elles ne sont pas à la bonne taille. Donc tout ça, ce sont les loyautés inconscientes, évidemment. Hein, on n'a pas forcément conscience de ce que vivaient nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents. Mais quand on s'intéresse au transgénérationnel, on voit toutes ces occurrences en fait, dans nos arbres qui viennent, ces répétitions, que ce soit des prénoms, des dates de naissance, des situations... des enfants morts-nés, des femmes seules, des hommes qui partaient en voyage, qui se répètent avec des mêmes prénoms. Enfin, voilà, mille et un exemples. Et puis après, ceux qui croient à la réincarnation peuvent aussi dire qu'est-ce qu'on hérite aussi de nos blessures karmiques, de ce qui serait peut-être des vies passées. Voilà, je mets des grands points d'interrogation là-dessus. Tout ça reste bien entendu un très grand mystère. Quand je vivais aux États-Unis, je m'étais intéressée de près à un psychiatre qui était déjà mort, mais en tout cas à ses écrits, qui avait vécu aux États-Unis avec sa femme américaine, qui avait été une immense championne de golf. Et lui, un peu par hasard, grâce à son épouse, s'était intéressé aux vies intérieures en tant que psychiatre, que médecin psychiatre. Et il s'était après installé en France... à Collonges-la-Rouge, je crois, il soignait des personnes qui avaient été vues par la médecine conventionnelle, y compris la psychiatrie, et qui arrivaient à travers des régressions sous hypnose dans des vies antérieures à soigner en fait des patients qui, voilà, du jour au lendemain, arrivaient à se soigner de problématiques que la médecine conventionnelle n'arrivait pas à traiter. Bon, après, ça reste, on parle aussi avec Bernard Werber, hein, les vies antérieures, est-ce que ça reste un voyage finalement de la psyché, des sortes de rêves un peu lucides, Après, il y a des expériences qui sont très troublantes aussi sur les vies antérieures, des gens qui ont des récits, voire même des enfants assez troublants. Bon, enfin, peu importe, là chacun y mettra les croyances qu'il veut, mais en tout cas, pour revenir aux blessures, on hérite vraiment de beaucoup de choses, hein, des archétypes du monde. Les archétypes, ce sont vraiment ces espèces de formes, images, ces récits collectifs, que ce soit les grands mythes, les grandes histoires de nos fondements, de nos sociétés, ou même de nos familles, hein, de nos mythes familiaux, qui vivent en fait à l'intérieur de nous. Et donc tout ça, pour revenir au chaudron et au volcan, voilà, je suis habitée, je suis habitée de tout cela qui vit à l'intérieur de moi, et donc qui peut faire beaucoup de lumière, mais aussi des grosses blessures sur certains sujets, et qui fait que parfois la colère qui est en moi, cette graine de tyran que j'ai aussi à l'intérieur de moi, cette graine de dictateur, cette graine de personne violente, comment finalement elle vit au monde à travers moi. C'est vrai qu'en conscientisant nos histoires, il y a quand même quelque chose qui se métamorphose dans une forme de pacification de la prise de conscience de qui je suis et qui peut s'apaiser. Et en apaisant cette colère en moi, ce volcan à l'intérieur de moi, c'est toujours un petit bout de la colère du monde qui vient s'apaiser. Donc c'est ça dont je
Ah, c'est
parle
beau.
dans le conte.
C'est magnifique ce que tu dis. Et d'ailleurs, ça me fait penser au passage qui m'a particulièrement touchée à l'approche du volcan, celui des âmes mi-noires, mi-grises, mi-anges, mi-démons, au caractère imprévisible. Et effectivement, en fait, elles ont ce caractère imprévisible de par l'effet miroir. Donc
Absolument.
ça rejoint exactement ce que tu dis. Donc, c'est-à-dire que leur humeur va dépendre de l'énergie de l'autre. Et je trouve que c'est une très belle représentation des humains en société. C'est-à-dire que quand quelqu'un est déjà à fleur de peau, si notre énergie est basse aussi, et si on ajoute de l'agressivité, l'état de la personne en face va s'empirer et possiblement créer voilà, une explosion. Et la fée l'a très très bien compris. Donc, elle décide plutôt d'être compatissante. Et cela fonctionne puisqu'elle lui laisse le passage. Et je trouve que c'est un beau message transmis que lorsqu'on est face à l'agressivité, à ce volcan de colère, c'est toujours si important de rester dans une position compatissante et d'éviter la défensive, de vraiment s'abandonner à la bienveillance. Alors, bon, ça nécessite toutefois d'être quand même assez solide et de ne pas s'identifier à l'ego. Toi, Anne, c'est quelque chose qui résonne dans ta vie?
Ben moi, comme tout un chacun, ça m'arrive d'être encore bien déclenchée, entre guillemets, quand je dis déclenchée, c'est-à-dire activée par la blessure de l'autre qui vient faire écho à ma propre blessure. Ensuite, certainement, maintenant, mes synapses et ma conscience permettent de repérer plus facilement cette activation et d'avoir cette petite zone de vigilance, de me dire, ah tiens, c'est intéressant. Voilà, là, ça vient appuyer ça vient me déclencher à nouveau sur. Une blessure, puis parfois on a l'impression d'avoir travaillé une problématique particulière et qu'elle est derrière soi, et puis la vie vient nous rappeler justement en effet miroir dans une situation que bah non, c'est encore bien présent. Puis voilà, c'est ok d'accueillir ça, mais c'est encore bien présent que l'autre, d'un seul coup, à nouveau en effet miroir, dans sa blessure émotionnelle, il vient à nouveau déclencher la mienne. Et voilà, et comment je me comporte par rapport à ça. Donc c'est vrai que quand on a plus de conscience de ce qui nous active, il y a quelque chose quand même de merveilleux qui permet assez rapidement soit de connaître les techniques, soit de s'apaiser, soit de se poser la question, est-ce que je souhaite rentrer dans cette activation et repartir dans cette systémie? Par exemple, le bon vieux triangle de Cartman, enfin le bon vieux, le pauvre, je dis ça, mais... je dis bon vieux parce qu'il est quand même maintenant assez connu, de cette triangulaire de victime bourreau sauveur. Voilà. Donc quand je suis
Oui.
déclenchée émotionnellement, est-ce que je veux me remettre dans le rôle soit de la victime, soit du bourreau, soit du sauveur, et peut-être être un peu plus en conscience de ce qui se joue. Ça peut être dans des choses vraiment très basiques de la vie de tous les jours, hein. Y compris avec ses propres enfants, de se dire. Tiens, là, je pourrais faire à sa place, être dans le sauveur. Alors, moi, je suis très sauveuse, donc forcément, y compris avec mes enfants, Tiens, si je peux faire ça pour eux et leur éviter cette peine, je vais le vivre à sa place. Or, on ne peut pas vivre à la place des gens, on ne peut pas vivre à la place de ses enfants. On a tous, finalement, dans cette quête du héros, hein, pour revenir sur Joseph Campbell, on est vraiment dans cette quête du héros de la vie, où on traverse des défis, des initiations, et que c'est à chacun vraiment de... Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider l'autre, hein. C'est pas ce que je dis, hein, que chacun doit se débrouiller, mais de ne pas être systématiquement dans « je vais le faire pour toi pour t'empêcher de souffrir et de traverser cette initiation
voilà. ». C'est ça. En fait, il ne faut pas aider l'autre, il faut inspirer l'autre à s'aider soi-même, à s'aider lui-même. Souvent, c'est ce que je dis. En humanitaire, on a beaucoup ce problème du sauveur blanc, hein, qui vient faire des dons et qui crée une forme de dépendance. Nous, c'est ce qu'on souhaite vraiment éviter en créant des projets. Donc, ça veut dire que ce n'est pas évident parce que parfois, les indigènes nous demandent des choses. Je sais pas, ça peut être des minibus, des motos, de l'essence. Et très honnêtement, mon côté sauveuse aussi, dire non, c'est extrêmement difficile. Mais je n'ai pas le choix parce que sinon je ne les aide pas. Parce que le but, c'est que vraiment ils soient autonomes, donc ils s'aident eux-mêmes. Et nous, c'est en ce sens qu'on lance des projets seulement. Et après, c'est à eux de trouver les canaux de vente, hein, pour pouvoir... être indépendant.
Oui, et c'est comme finalement... ça que c'est comme ça que l'abbé Pierre avait fondé Emmaüs en disant « Je ne peux rien pour toi, mais toi, tu peux m'aider. »
Et voilà, exactement. Non, c'est beau et c'est à l'échelle de nos blessures et de toutes nos sphères personnelles, amicales, professionnelles, intimes, etc. C'est toujours, si on ressent un problème, en fait, c'est de pouvoir inspirer l'autre sans prendre sa place. Et ça demande un équilibre presque parfait, parfois. C'est exigeant, disons que c'est exigeant.
Oui, il y a une exigence, effectivement, en effet.
Alors justement, dans Métamorphose, tu abordes beaucoup la thématique de l'empêchement, donc d'être empêché, hein, de pouvoir transmuter ses blessures. Et je me posais la question, serait-ce des empêchements façonnés par des croyances, des loyautés sclérosantes? Parfois, on a beaucoup la croyance dans l'inconscient collectif que la vie n'est pas facile, qu'on doit apprécier le bonheur, qu'on apprécie le bonheur par contraste avec la souffrance, etc. Enfin, il y a quand même tous ces croyances collectives assez lourdes qui nous mettent dans cette position, finalement, parfois, d'empêchement. Alors pour toi, d'où ça pourrait venir, ces empêchements?
C'est vrai que c'est une vraie question parce que la résilience a été tellement popularisée aussi, notamment par Boris Cyrulnik, que quand j'en discute avec des amis psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, ils disent aussi attention un peu à cette aussi croyance de la baguette magique, parfois du développement personnel, qui pourrait dire... Non mais attends, en gros, si t'es pas résilient ou si t'arrives pas à te débarrasser de tes empêchements, c'est que t'as pas assez essayé ou tu vois, tu t'es pas bougé assez, etc. Voilà. Et donc c'est toujours cette question qui me taraude, hein, de qu'est-ce qui procède, d'une forme de volonté propre et de brèche, parce souvent de la brèche de lumière, la brèche qu'on a en soi qui à un moment donné laisse la place à une forme d'abandon qui permet une forme de guérison, quelles que soient les voies thérapeutiques qu'on va chercher ou quelles que soient les voies qu'elle va emprunter, et qui fait que chez certaines personnes, quelle que soit finalement la difficulté de leur trauma dans un sens comme dans l'autre, chez les résilients ou chez ceux qui sont vraiment très empêchés, quel que soit à degré de trauma, on pourrait dire équivalent, qui fait que ces empêchements sont tellement importants que... une guérison de blessure n'est pas possible. Et là, je trouve personnellement qu'on touche on est face à un mystère. On est vraiment face à un mystère. Et que j'ai envie d'accueillir comme tel. Est-ce que là, on touche à un mystère justement très profond de l'âme, du chemin de l'âme, qui est finalement à la fois collectif, mais aussi peut-être propre à chacun. On a certainement les deux qui cohabitent. Le grand champ de conscience et une forme de conscience peut-être plus personnelle. Qu'est-ce qui fait que dans cette vie-là, on a tous autour de nous des personnes, on se dit, mais ils sont en boucle depuis des années sur les mêmes problèmes qui nous semblent parfois pas toujours si graves que ça, et qui sont dans des conditions où on se dit, non mais attends, va le mettre dans une situation terrifiante, il a quand même plus de chances que la plupart des gens, et en même temps d'accueillir ce mystère de ces empêchements chez l'autre. On ne sait pas la blessure qu'il a dans son histoire, qui finalement est une plaie profonde. Et qu'il ne peut, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne, il ne peut pas dans cette vie-là réussir à cheminer avec cette blessure. Et moi, vraiment, je m'incline profondément devant ce mystère de la résilience et du possible ou du pas possible en chacun, qui reste un grand point d'interrogation et donc une grande question dans Métamorphose, effectivement, cette question d'empêchement. Comme elle me taraude, je ne cesse de la poser pour voir si j'y trouve des voies de réponse. Et je crois que chez certaines personnes, certainement, ils quitteront peut-être cette terre avec cette blessure qui n'est pas pardonnée peut-être à l'intérieur d'eux parce que ce n'est pas possible et cela nous échappe. Voilà.
C'est vrai que c'est un peu c'est difficile à accepter du fait qu'on puisse pas y répondre et que ce soit un mystère. C'est tout le défi d'ailleurs de l'humain, c'est d'accepter des choses qu'on ne sait pas et qui sont totalement incertaines. Et ça me fait penser à, parce que j'ai interrogé Nicole Prieur aussi sur ce podcast, et je me souviens que dans l'épisode, elle avait dit que la dissociation ou le clivage, voilà, c'était plutôt le clivage, qui est donc une maladie mentale, hein, je vous réfère à l'épisode si vous ne savez pas ce que c'est, était incurable. Et puis je me souviens d'en avoir parlé ensuite à une amie qui, elle, est plutôt dans le développement personnel, enfin, elle est dans le coaching, elle aide les femmes, et qui m'avait dit, ah non, pour moi, tout est possible, il n'y a pas d'incurable, tu vois. Et là, je me suis effectivement, comme toi, posé la question. Alors, Nicole Prieur, c'est quand même une thérapeute depuis des années, qui a fait énormément de recherches à ce sujet. Et en même temps, il y a quelqu'un qui me dit que tout est possible, qu'elle a vu des gens guérir de maladies incurables. Alors, qui croire, qui, comment, quels outils trouver, c'est compliqué.
Alors oui, c'est vrai que moi je ne suis pas habilitée à répondre pour la psychiatrie, pour les médecins, mais en tout cas ce que j'ai entendu, c'est que en tout cas sur l'aspect dissociation et psychiatrique, les gens qui sont fortement dissociés et qui sont partis effectivement très loin, c'est effectivement très compliqué de voire impossible en effet d'arriver à des formes de guérison, voilà, même si avec la chimie on arrive quand même à les ramener et puis certainement à les stabiliser pour certains, mais pas tous. Et en même temps, si on regarde du côté du chamanisme ou de voies de guérison ou même du côté des miracles, si on revient chez les chrétiens, voilà, il y a aussi des gens, la science atteste parfois, qui se sont levés d'un fauteuil, ils étaient handicapés, ils ne l'étaient plus, donc le miracle et la guérison impossible existent et je pense qu'il faut laisser aussi cette place à ce mystère-là. Et les scientifiques, ils le disent aussi, certains disent que le miracle aussi existe. Alors, est-ce qu'il est lié justement à un moment donné à un abandon tel au mystère et à la croyance que je peux être sauvée et qu'il y a quelque chose qui dans l'énergie se guérit? Voilà, moi je crois que c'est possible. Et ensuite, c'est pas parce qu'on croit que c'est possible que tout est possible et que le miracle est systématique et que parce que le miracle, il est toujours aussi, bien sûr qu'on aimerait toujours sauver l'autre. Mais le miracle, il est possible quand l'autre accueille aussi probablement sa propre guérison. D'ailleurs, dans l'évangile, si on reprend cette parabole de Jésus. Il ne dit pas à l'aveugle Jésus, abracadabra, je te guéris. Il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Il renvoie chacun à sa propre puissance intérieure, à sa propre guérison intérieure. C'est parce que tu crois, toi, que tu es sauvé, mais c'est pas moi qui te guéris simplement par mon intercession. Il y a vraiment quelque chose de co-créateur quand même dans ce mystère de la guérison.
Oui.
Mais pour ça, il faut qu'il y ait cette ouverture aussi à une forme d'abandon de ça. Et quand on revient sur l'empêchement, l'impuissance, parfois les maladies mentales ont tellement pris la place, la dissociation est tellement puissante d'un point de vue neurotoxicité que où est la place pour cet abandon-là? Ben, moi, je ne sais pas. J'ai l'impression que parfois, il n'y en a plus.
Oui, exactement. En fait, c'est pas parce qu'il y a des exceptions que tout le monde est capable de l'exception. C'est très juste. On approche à la fin de cet épisode, Anne. Donc, je pose toujours cette dernière question en fin d'épisode. Alors, tu l'interprètes comme tu le souhaites. Il n'y a pas de définition déterminée du terme. Mais penses-tu que nous sommes des êtres illimités?
Je pense que nous sommes des êtres infinis.
Oh, c'est beau.
Et je vois une différence entre la limite et l'infini. Je pense qu'on a cette graine de puissance infinie à l'intérieur de nous qui contient la limite et l'illimité. Et en fait, l'infini, pour moi, contient les deux, en fait, dans cette puissance qu'on peut retrouver à travers la métaphore d'une graine, par exemple. On sait que la graine, elle contient en puissance quelque chose d'infini, de cyclique, et qui finalement, voilà, est quelque chose de sans fin. Donc, oui, je pense que dans un contenant d'une matérialité finie telle que nous sommes incarnés, nous sommes limité et illimité, mais sur un plan beaucoup plus absolu de la conscience, nous sommes des êtres infinis, oui. Absolument. En tout cas, c'est ma croyance aujourd'hui.
Super. Merci beaucoup, Anne. Merci infiniment, Anne. Et donc, vous pouvez retrouver son ouvrage « Conte pour adultes, la fée qui ouvrait les cœurs » chez les éditions Erol, magnifiquement illustré par Izumi Idoya. Merci infiniment, Anne.
Merci à toi Anaïs pour ce bel échange entre nous. Merci pour tes questions.
Après avoir écouté cet épisode, peut-être que comme moi, vous remettez certaines choses en question. N'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet sur les réseaux ou directement sur votre plateforme d'écoute. Croire c'est voir pour aujourd'hui, c'est fini. Abonnez-vous pour retrouver le prochain épisode. À bientôt !